Chapitre 13. Août 2018. Sophie se baisse pour lire l'inscription gravée sur une petite plaque de bois sous le rosier de l'arrêt de bus. Rose Talula, dans l'espoir de te revoir. Elle se relève et jette un œil autour d'elle, cherchant la fenêtre derrière laquelle la pauvre Kim Knox regardait sa fille attendre le bus. Il n'y a pas de maison à proximité de l'arrêt, mais Sophie remarque une sorte d'impasse de l'autre côté de la place, jouxtant l'entrée de Maple House. Le soleil se reflète dans plusieurs vitres. Elle traverse à nouveau la place et s'avance dans la ruelle. 6 habitations sont disposées en arc de cercle autour d'un petit square. Des voitures sont garées à cheval sur le trottoir pour que les autres riverains puissent tout de même passer. Ce sont de petites bicoques datant d'après-guerre, avec une façade en crépit et un porche en bois. Elle se retourne vers la place, essayant de déterminer depuis quelle fenêtre on peut voir l'arrêt de bus. 2 maisons, sans doute. L'une d'elles est assez délabrée, l'autre paraît moderne et accueillante. Il y a des cactus dans des pots cuivrés en guise de jardinière, et Sophie devine un canapé en cuir marron couvert de coussins colorés au fond de la pièce. Selon l'article de journal, le soir de leur disparition, Talula et son petit ami étaient allés au Swan and Ducks, le pub que Peter Doody leur avait recommandé le jour de leur emménagement. Sophie fait le tour de la place jusqu'à se retrouver devant l'établissement, qui est très beau, fraîchement repeint dans un camailleux de gris, avec une petite cour de gravier à l'avant où l'on peut s'attabler, de grands parasols crème et des ardoises où sont détaillés le menu et l'assortiment de bière. Elle pousse la porte. C'est un pub gastronomique tout à fait classique. Il y a du lambris sur les murs jusqu'à mi-hauteur, du papier peint à motifs, des tableaux abstraits, un parquet ancien et des spots halogènes. La femme derrière le bar a une 40aine d'années et est d'une beauté singulière. Elle porte un t-shirt noir à manches courtes moulant, un jean foncé et un tablier de serveuse serré autour de la taille. Ses cheveux bruns sont attachés en queue de cheval. Elle s'approche de Sophie avec un sourire, une main posée sur le comptoir. « Qu'est-ce que je vous sers ? Un cappuccino, s'il vous plaît. » « C'est parti. » Elle se retourne vers la grande machine à café en chrome et Sophie remarque les tatouages qu'elle a à l'intérieur des bras. Au début, elle a l'impression que ce sont des brûlures ou des cicatrices. Puis elle comprend que ce sont des empreintes de pas d'enfant. « J'adore vos tatouages. Les pieds de bébé. » La femme pivote et Sophie voit son sourire s'effacer. Elle baisse les yeux vers l'un de ses avant-bras et touche le dessin doucement. « Oh, merci. » Elle se remet aussitôt au travail. Les crachotements et sifflements de l'appareil sont si forts que Sophie renonce à poursuivre la conversation. Son regard s'attarde sur les jambes de la serveuse pendant qu'elle attend son café. Elle est menue, mais porte de grosses bottes militaires en cuir noir qui ont bien vécu. Un souvenir affleure dans la mémoire de Sophie. Elle a déjà vu ses chaussures, très récemment. Ça y est, elle met le doigt dessus. Les photos de la marche blanche pour Talula. La mère portait ses mêmes bottes avec une jolie robe à fleurs. La femme se tourne vers elle, tenant le café de Sophie à la main. « J'ajoute du chocolat par-dessus » demande-t-elle, le poudrier de cacao déjà en l'air. Sophie saisit que c'est elle, la mère de Talula, Kim Knox. Elle se fige. « Alors ?» insiste la serveuse en agitant le récipient. « Pardon. Oui, s'il vous plaît. Merci. » Kim Knox saupoudre la surface de la tasse avant de la lui tendre. Sophie cherche son porte-monnaie dans son sac, fuyant son regard. Elle a l'impression qu'elle vient de se faire prendre en flagrant délit d'indiscrétion. Elle paie en sans contact et va s'asseoir avec sa boisson dans un petit fauteuil recouvert de velours violet, à côté d'une table basse en laiton. D'ici, elle observe Kim Knox ranger des bouteilles de soda dans les étagères. Elle dégage une énergie étrange. Elle ne doit pas peser plus de 55 kilos, mais dans ses mouvements, il y a une vigueur qui laisse deviner une force inattendue. Un jeune homme entre dans le pub et fait le tour du bar. « Salut Nick. Bonjour Kim. » répond le nouveau venu avant de disparaître par une porte. C'est donc bien elle, Kim Knox. Nick réapparaît une minute plus tard et noue un tablier autour de sa taille, puis remonte les manches de sa chemise. « Tu veux un coup de main ?»« Volontiers. » répond-elle en se déplaçant pour lui faire de la place. Sophie baisse les yeux et feint de lire un texte sur son téléphone. Elle se demande depuis combien de temps elle travaille ici. Était-elle là le soir de la disparition de sa fille ? Des dizaines de questions tournent en boucle dans sa tête. Elle sent que son duo de détectives imaginaires, Suzy Beats et Tiger Yu, est en train de renaître de ses cendres. Quand elle écrit, elle invente un mystère, et ces deux personnages doivent le résoudre pour elle. C'est sa routine créative. Suzy et Tiger n'auraient aucun scrupule à aller questionner cette belle femme triste pour découvrir ce qui est arrivé à sa fille. Ils le feraient sans tergiverser, parce que c'est leur métier. Mais ce n'est pas celui de Sophie. Elle ne mène pas l'enquête. Elle est romancière et n'a aucun droit de s'immiscer dans la vie privée des gens. Quand elle quitte le pub, quelques minutes plus tard, Kim Knox lui adresse un sourire. « Bonne journée !» s'exclame-t-elle en se penchant pour ramasser la tasse de café que Sophie a posée sur le bar. « Merci, à vous aussi !» Sophie exhume un vieux vélo du cabanon dans le jardin, enlève les feuilles mortes et les toiles d'araignée et se met en route vers Uplayfold. Après une matinée couverte, le soleil commence enfin à percer. Les haies sentent le cerfeuil et la paille, l'air est lourd et chaud. Elle descend de vélo quand elle arrive devant le manoir et s'avance dans la cour en faisant crisser le gravier. Elle regarde à l'intérieur par la vitre de la porte principale. Quelques enveloppes traînent sur le paillasson qui ont sans doute été poussées sous la brosse du coupe-brise. Elle ouvre son sac à dos et cherche le cintre en métal qu'elle a emporté dans cette éventualité. Elle s'agenouille et le glisse sous la porte. Elle touche quelque chose. Elle se baisse encore et approche l'objet à l'aide du cintre jusqu'à ce qu'elle puisse l'atteindre du bout des doigts. Elle tire doucement. C'est une enveloppe. Une lettre adressée à M. Martin J. Jacques. Elle soupire de soulagement. Jacques, pas un nom commun dans les environs. Cela devrait lui permettre de mener quelques recherches sur Internet. Elle prend en photo le courrier et le pousse à nouveau sous la porte. Il est maintenant presque 11h. Elle s'accorde encore quelques minutes pour fureter avant de devoir rentrer au village pour son déjeuner avec Sean. Elle fait le tour de la maison, franchit la belle porte en fer forgé arrondie qui mène au jardin et à la piscine. Elle jette un coup d'œil par les fenêtres. Elle s'introduit dans une serre et soulève les pots vides, dérangeant les insectes qui se carapatent. Elle attrape une petite truelle rouillée posée sur un banc en bois et la range dans la poche extérieure de son sac. Elle vient d'avoir une idée. La flèche dessinée sur le morceau de carton cloué à la clôture pointe vers le sol, un peu à gauche. Elle ne sait pas si l'ordre de creuser ici est une instruction précise ou plutôt une indication générale, mais elle plante la lame le plus proche possible de la flèche. Elle sent son cœur battre de plus en plus vite à chaque pelletée de terre soulevée, et l'angoisse se répand dans ses veines. Il y a 14 mois, deux jeunes ont disparu entre les cendres et le village, potentiellement dans ces bois. Cette pancarte, qui lui avait semblé futile il y a 2 jours, qui, pensait-elle, devait être l'un des éléments d'un exercice de cohésion d'équipe ou d'un jeu de piste, ce morceau de carton qu'elle était sûre d'avoir déjà vu quelque part, à un autre moment de sa vie, représente désormais la potentialité de l'horreur absolue. Trouvera-t-elle un lambeau de vêtements? Un bout d'os? Une mèche de cheveux entourée d'un ruban en satin poussiéreux? Elle retient son souffle et la truelle s'enfonce de plus en plus profondément dans la terre sèche. Chaque fois qu'elle tombe sur un caillou, elle respire à nouveau. 9 minutes plus tard, l'outil heurte un petit objet dur. Un cube noir. Elle le sort du sol en grattant avec ses ongles et les poussettes. Un logo doré est incrusté dessus, mais c'est impossible de le reconnaître. À force de le manipuler, elle comprend que c'est l'écrin d'une bague. Elle l'ouvre avec ses pouces. À l'intérieur se trouve un solitaire étincelant monté sur un anneau en or.